Maurice Renard, Les enquêtes du commissaire Jérôme, L'ingénu. En passant qu'à des orfèvres, l'idée me vint d'aller dire bonjour au commissaire divisionnaire Jérôme, que je n'avais pas vu depuis assez longtemps. Je lui fis passer ma carte. L'agent qu'il avait prise reparut presque aussitôt, en me priant de patienter un petit moment. Le divisionnaire recevait quelqu'un qui était sur le point de se retirer. En effet, quelques minutes seulement s'étant écoulées, je vis sortir du cabinet de Jérôme un vieil homme tassé, marchant péniblement avec beaucoup de difficultés, et que l'excellent policier reconduisait jusqu'à la porte avec beaucoup d'égards. Dès que cet ancêtre eut pris congé de lui d'une façon à la fois déférente et affectueuse, Jérôme me fit signe d'entrer, et tout en me serrant la main, il regardait s'éloigner vers la cage de l'ascenseur le bonhomme tout cahotant. « Pauvre vieux Léonard !» murmura-t-il. « Oh, Léonard » fis-je. « Voilà un nom qui me dit quelque chose. » Jérôme avait refermé la porte, et sur cette porte, le ventail capitonné et l'étouffoir de Voleskine, vers lequel je ne puis jamais regarder sans frissonner quelque peu. « Léonard, » me dit-il, en me désignant un fauteuil, « c'est l'homme que j'ai vu dans la plus grande colère qu'on puisse imaginer. » Mais encore, insistai-je, « qui est-il ? » Je me souviens vaguement d'avoir entendu parler d'un détective. Attendez. Ah oui, je me rappelle maintenant. Je revois des notes de publicité, des affiches. Votre Léonard n'avait-il pas dirigé une agence de recherche ? C'est bien cela. Oh, vous avez de la mémoire. Car l'agence Léonard a fermé ses portes il y a quelque 20 ans. Elle prospérait d'ailleurs, mais le vieux, il en avait assez. Et personne s'est risqué à reprendre la suite. Jérôme, dis-je, à lécher par l'espérance d'une histoire, vous parliez à l'instant d'une colère. Il se mit à rire et, sans se faire prier, commença. Un soir d'autrefois, Léonard se trouvait seul dans son bureau. Il était d'une humeur massacrante. Il souffrait, la goutte le tenaillait ferme. Et il n'était pas, c'était par là, la jambe étendue sur une chaise, à pester en fumant cigare sur cigare, s'il avait pu se faire remplacer, mais ses collègues, ses collaborateurs étaient tous occupés au dehors, à des enquêtes, des filatures, etc. Et Léonard n'aurait pas voulu, pour tout l'or du monde, qu'un client quelconque se trouvât personne à qui parler en se présentant avant 19h à l'agence qui portait son nom. Cependant, le temps passait. L'heure venait où il pourrait décemment rentrer chez lui. Et nul ne franchissait le seuil de l'agence pour solliciter son concours. Le téléphone restait muet. La journée semblait finie. Et c'est alors qu'on frappa très discrètement. Léonard, merveilleusement disposé à l'impatience, dut répéter « Entrez !» plusieurs fois avant que un jeune homme intimidé, vêtu correctement et qui, en apercevant Léonard, arbora un large sourire. Ce large sourire paraissait cacher un grand trouble. « Excusez-moi si je ne me lève pas, » lui dit Léonard en montant sa jambe. « Et en quoi puis-je vous servir, monsieur ?» L'autre alors rougit terriblement. « Bien, je viens voir, » dit-il, « si vous voudriez m'engager comme détective, je... »« Ah, ah, bon ! Ah, bon !» fit Léonard. « Bon, encore un autre !» Et il toisa d'un air narquois et assez hargneux le petit jeune homme. On ne pouvait imaginer visage plus candide que celui-là. C'était un visage rond, d'une fraîcheur enfantine, éclairé par des yeux ingénus, d'un bleu innocent. Bref, la figure d'un bien petit gars, un bon petit gars, sans malice. Alors, fit Léonard, la vocation, hein ? Eh oui, monsieur, une vocation irrésistible. Et voilà, comme les autres. C'est-à-dire, mon petit, que vous avez lu beaucoup trop de romans policiers et que cela vous a tourné la tête. Mais il y a une chose que vous ne saviez pas, c'est que tous les jours je reçois des visites comme la vôtre. Bien, croyez-moi, j'ai l'habitude. Vous n'avez rien de ce qu'il faut. Littérature, mon garçon, littérature. Allez, rentrez chez vous. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de personne. Et puis je recrute mon personnel parmi les vieux rouliers, plutôt que qu'à la pouponnière. Il avait lâché cette méchanceté à cause d'une douleur qui venait de lui brûler les pieds. Mais le petit jeune homme en fut si navré que Léonard regretta ses paroles. Et à ce moment, le téléphone sonna. Et le policier décrocha l'appareil, laissant son visiteur le nez baissé, les sourcils froncés, l'air enfin parfaitement déçu, profondément déçu. « Allô ?» dit-il. « Quoi ? N'entends rien. » « Ah oui, le collier de celle, la perle de la comtesse !» Il écouta silencieusement, avec un étrange sourire, mais mauvais, et répondit « Cher anonyme, vous perdez votre temps. La plaisanterie a assez duré. Il raccrocha, l'œil dur, et dit au jeune homme, « Allez, je ne vous retiens plus. » Mais celui-ci avait relevé la tête. « Pardonnez-moi, fit-il, j'ai entendu ce qu'on vous disait à distance par l'écouteur resté libre. Celui qui a volé le collier de la comtesse Wolfhoff vous indique avec autant de cynisme que d'ironie que le collier se trouvera ce soir sur l'un des invités de la marquise de Berdièvre. Voulez-vous me permettre d'assister à cette soirée? J'ai un habit très convenable. Vous? Mais vous n'y pensez pas, bougonna Léonard. Vous êtes un gosse. Du reste, même s'il disposait d'un... mes collaborateurs, je ne l'enverrai même pas chez la marquise de Pavandèvre. Voilà trois fois, entendez-vous, bien trois fois que le voleur, ou plutôt le chef de la bande inconnue, se fiche de moi en me signalant que à telle heure le collier sera ici ou là. Oh, c'est malin. Mais comment voulez-vous qu'on le déniche, ce collier? Vous pensez bien que celui ou celle qui le détient ne va pas l'exhiber? Mais évidemment. Mais voudriez-vous quand même décrire l'objet? Oh, 180 perles. Et en trois rangs. Merci. Peut-on téléphoner cette nuit? Mais naturellement, dit Léonard. En baissant les épaules, en haussant les épaules. Mais si, comme j'en ai la certitude, vous provoquez quelque fâcheuse histoire, je vous en prie, hein, n'y mêlez pas l'agence Léonard. Pas un mot de moi. À 2 heures du matin, Léonard se livrait à cette colère furibonde dont je vous ai parlé en commençant. Tout ce qu'il avait pu craindre se produisait avec une ampleur qu'il n'avait pas jamais soupçonné. L'ingénu avait remarqué chez la marquise de Berdièvre une vieille coquette qui portait un collier d'énormes perles sur trois rangs. Usant de son aimable jeunesse, il avait réussi à capter sa confiance et, sous prétexte de la conduire au dancing, il l'avait amenée chez Léonard. L'indignation de cette femme était indescriptible. Quant à Léonard, tout en s'excusant auprès d'elle jusqu'à lui parler de dommages, de dédommagement. Il l'invectivait de la bonne manière, l'infortuné Greluchon, Greluchon. Ah, je comprends, vous y remarquez ce collier. Il est assez visible, en effet, Mais ce qui crève les yeux aussi, c'est que les perles sont fausses. Madame ne m'en voudra pas, mais elles sont fausses. Archi-fausses. Vous êtes un fellow, mon petit pauvre petit garçon. Oh, je sais bien qu'elles sont fausses, lui répondit le petit jeune homme d'une voix suave. Les vrais sont dedans, on les entend remuer en approchant l'oreille, comme madame en dansant m'a permis de le faire. Et c'était vrai, les perles de la comtesse Waldorf avaient été fort habilement cachées dans de grossières imitations. Pouvait-on inventer une meilleure cachette? Certes non, dit Charles Jérôme. Mais vous me disiez, mon cher divisionnaire, que vous aviez vu la colère de Léonard. Au comble, ayez-vous donc présent? Et comment? Fit-il. Car le petit jeune homme, c'était moi.